Mais je vous aime. Je veux pas vous perdre. Vous entendez? Je veux pas vous perdre. Je veux pas vous perdre.
Ce sera le triomphe de l'amour ce soir dans le rendez-vous en direct sur France Culture. Il sera question de cinéma, de Nathalie Wood, de Clavecin, d'Étienne Dao et même de Gianni Versace. Avec Elsa Zieberstein pour son rôle de comédie dans Gemma Bovary, le film d'Anne Fontaine, Manu Farine.
Avant de la retrouver en Nathalie Wood au théâtre, un rôle qui s'inscrit dans un parcours rythmé de figures historiques, Anna Arendt, Suzanne Valadon et bientôt Arletty.
19h30, la chronique cinéma de Jean-Marc Lalanne qui met ce soir à son programme une jeune revue de cinéma très chouette, Réplique. C'est bien ce que vous m'avez écrit dans votre SMS.
Je confirme.
Très chouette.
D'accord. C'est un peu désuet, mais c'est un joli mot.
C'est vrai. Vous êtes né quelle année ? 19h35, plateau musique française avec Hervé Niquet. Le chef d'orchestre est partout en cette rentrée musicale. De Rameau à Dao, Lucille Como.
Retour sur le parcours d'un musicien à l'âme de brocanteur et qui cherche année après année de nouvelles pièces des maîtres français.
Mais d'abord, c'est l'actualité culturelle, le tout nouveau journal de la culture de Zoé Sfez.
J'aurais été très étonnée qu'on soit condamné. Parce que ça serait remis en doute la laïcité et le sécularisme en France. Et ça aurait été très grave pour la France.
C'est votre son du jour, Zoé Sfez. Il a presque été dévoilé par Stanislas Vazak.
Oui, mais j'ai toujours une petite longueur d'avance sur lui. Alors, c'est une jeune fémène française qui s'exprime. Donc, Stanislas nous l'a dit, 9 membres du groupe féministe qui étaient poursuivis pour avoir dégradé une cloche de Notre-Dame ont été relaxés aujourd'hui par le tribunal correctionnel de Paris. Le tribunal qui leur donne raison et qui condamne 3 des agents qui les avaient sortis de manière un peu musclée. Une décision symboliquement assez forte et qui est déjà très contestée sur les réseaux sociaux. Et puis, le parquet, déjà, annonce qu'il va faire appel de cette décision.
Et on passe maintenant à l'interview du jour. C'est l'un des gros dossiers de la rentrée. La Philharmonie de Paris est sur le point de voir le jour. Le chantier doit se terminer en novembre et la salle doit ouvrir en janvier. Le projet suscite beaucoup de questions et vous avez rencontré le directeur de la Philharmonie de Paris. C'est un entretien exclusif avec Laurent Bayle.
Oui, alors Laurent Bayle, notre cher ami Laurent Bayle. La Philharmonie, c'est ce projet très controversé, une salle pour la musique classique, mais à la Villette, porte de Pantin, chiffrée à 177 millions d'euros, le châtier en a coûté 386 finalement. Et aujourd'hui, la ville de Paris refuse de payer le surcoût de ce chantier. Alors au-delà de ces questions financières sur lesquelles Laurent Bayle refuse de s'exprimer, mais sur lesquelles bien sûr on reviendra dans le journal de la culture, au-delà de ces questions-là, le projet lui-même suscite beaucoup de réserves, beaucoup de critiques, à commencer par la salle elle-même. Si vous êtes parisien, vous avez certainement déjà vu le chantier titanesque qui culmine à plus de 37 mètres. On annonce une salle révolutionnaire. Alors, quelles en sont les spécificités ? C'est la question que j'ai posée à Laurent Bayle.
Une qualité acoustique optimale par rapport aux besoins des répertoires, notamment symphoniques et des grands orchestres. Une combinaison qui paraît contradictoire, mais entre le fait d'avoir ces plus grands volumes tout en générant une intimité plus forte. C'est-à-dire que tout le public est disposé plus près des musiciens. C'est ce qu'on appelle le modèle enveloppant. Vous avez une scène centrale, le public est tout autour installé. Et pour donner un exemple, le spectateur qui sera le plus éloigné du chef d'orchestre à la Philharmonie sera à 32 mètres, alors que la salle Pleyel qui a 500 places de moins, le spectateur le plus éloigné est à 47 mètres. Mais ça, c'est un aspect. Le deuxième aspect, c'est que aujourd'hui, nous vivons dans un monde différent. Et l'enjeu central, c'est l'enjeu de faire passer des formes patrimoniales en confrontant savants et formes populaires les plus actuelles, qui peuvent venir du jazz, qui peuvent venir du rock, qui peuvent venir des musiques du monde, dans une idée d'éviter l'accaparation d'une musique par un type de public. Et cela impose un projet extrêmement volontariste sur le plan éducatif. Et nous allons développer une très très importante offre éducative. Pour vous donner un exemple, la Cité de la Musique était jugée comme un pionnier avec quelques 30 000 entrées dans les ateliers d'offres éducatives. Là, nous allons passer à un modèle de 120 à 150 000 entrées en faisant percevoir aux jeunes et aux adultes le sens que peut encore avoir aujourd'hui la colonne vertébrale historique.
Alors c'est un projet extrêmement ambitieux. Et alors ce choix de programmer aussi des musiques actuelles suscite pas mal de critiques, puisque c'est la première fois en un siècle que Paris construit une salle symphonique, que par ailleurs on est juste à côté du Zénith et puis de la Grande Halle de la Villette. Pour certains, il n'y avait pas de réel besoin pour une telle programmation. Est-ce que vous entendez cet argument ?
Non. Encore une fois, la question, centrale, qui est une question de modèle culturel qui s'oppose à la musique et qu'on pourrait d'ailleurs également étendre à d'autres formes artistiques. Mais il se pose principalement à la musique, car c'est peut-être le domaine où le cloisonnement et la spécialisation ont le plus créé de clivages qui reproduisent, en termes de société, un certain nombre d'incompréhensions. Ici, il ne s'agit pas d'opposer les musiques actuelles aux musiques savantes. Il s'agit de trouver un sens. Non, la musique classique et le patrimoine ne sont pas des musiques bourgeoises destinées à une élite. Ce sont les usages que nous en faisons qui les réservent à des élites. Donc, nous pouvons véhiculer un projet qui, sans aucune honte, dit que le socle, la dimension historique, est une dimension encore actuelle qui parle aujourd'hui et qui fait sens dans la société dans laquelle nous allons, à condition de confronter ces musiques à d'autres formes. C'est dans le rapport aux deux que se joue. Le projet n'est pas de créer un Zénith, un Bercy, ou que sais-je. C'est dans cette relation-là qu'on doit trouver et le sens de la philharmonie et redonner du sens à la dimension musicale que, de mon point de vue, dans la manière de créer un citoyen, la musique doit avoir dans une société.
Voilà, alors la suite de cet entretien avec Laurent Bayle, c'est demain dans le Journal de la Culture.
Hervé Niquet, chef d'orchestre, chef de chœur, claveciniste, peut-être une réaction à ce dossier, à ce projet de la philharmonie ?
Non. Non, parce que c'est un projet très... C'est une vraie patate chaude, hein. Tout le monde le sait. Et voilà, donc... Puis moi, je vais y jouer, donc...
Ben voilà.
C'est un domaine très, très compliqué. Donc voilà.
Mais ça vous excite quand même, la création d'une nouvelle salle à Paris ?
Bien sûr. D'abord, comme dit Laurent, c'est un endroit qui va être extraordinaire. Je pense que ce projet enveloppant, là, comme la Philharmonie de Berlin, était très, très étonnant. Et je crois que c'est le centre du projet, mais il y a plein de choses politiques autour. Vous savez, moi, je suis que fils de cultivateur. Tout ça me passe, mais loin au-dessus.
Lucille.
Vous vous intéressez beaucoup justement à l'architecture et par-delà l'architecture, oui, à l'acoustique des salles. Comment vous l'imaginez, cette acoustique-là,
par rapport, eh bien, à salles, pour avoir fréquenté deux, trois salles comme ça, c'est très troublant parce que vous avez des gens, quand vous dirigez, moi de mon poste de chef d'orchestre, de conducteur, ben, il n'y a pas que l'orchestre en face, il y a plein d'autres gens qui vous regardent, et puis de côté, de profil, donc ça change en réalité, ouais, la sociologie de l'orchestre, vraiment. Et donc, et acoustiquement, c'est extraordinaire parce que le spectateur le plus loin, en fin de compte, est à moitié de la distance d'une salle ordinaire. Donc ça crée, comme dit Laurent, une proximité, une intimité. Voilà.
C'est... Et pour vous, c'est perturbant d'avoir les spectateurs autour de vous ?
Ah non, mais rien ne me perturbe, moi.
Vous savez, ça, je sais, vous grimpez dessus, oui.
Au fin fond de la jungle congolaise pour les Pygmées. Alors là, la Philharmonie de Paris, c'est rigolo à côté.
Qu'est-ce que vous avez joué chez les Pygmées ? Quel répertoire ?
J'ose à peine vous le dire, du Couperin. Et ça s'est très bien passé. On a terminé, évidemment, deux jours ensemble. C'était l'un des moments extraordinaires de ma vie.
On passe au bref.
Et on ouvre avec la mort de l'écrivain britannique Graham Joyce, maître du genre fantastique. Il était l'auteur de plusieurs best-sellers, Ligne de vie, Les limites de l'enchantement. Il tenait aussi un blog très suivi dans lequel il a souvent évoqué son cancer. Cancer qui vient de l'emporter à l'âge de 56 ans seulement.
La directrice du L, Valérie Thorragnon, serait sur le départ.
D'après plusieurs médias, l'Expansion, l'Express et Libé ce matin, la patronne de la patronne du magazine L. La patronne.
Et vraiment sur le départ, hein, s'il y a même plus son titre.
Bref, elle serait poussée vers la sortie. Elle a été directrice de la rédaction de l'Hebdo Féminin depuis 2002 et elle avait commencé avec sa collaboration avec elle à la fin des années 80. Lagardère refuse pour le moment de nier ou de confirmer cette info.
Canal Play contre-attaque face à Netflix.
On en parlait hier, le service de SVOD de Canal muscle encore son offre avec la mise en place d'un moteur de recherche personnalisé, d'un système de suggestions, d'un catalogue fourni et le lancement surtout de la production de plusieurs séries originales, c'est-à-dire exactement les mêmes points forts que Netflix.
Et la dernière.
Alors c'est une histoire assez touchante, d'hommage, de geek et de suicidé. L'éditeur de jeux vidéo Blizzard, qui édite l'un des jeux les plus joués du monde et les plus adulés, World of Warcraft, je sens que vous connaissez tous, a sombré dans la détresse le 11 août dernier.
Je crois que vous faites un bide total avec cette phrase.
Donc le 11 août, on a appris la mort, le suicide même de l'acteur américain Robin Williams. Et le comédien était fan de jeux vidéo, vous ne le saviez peut-être pas. Il avait même appelé sa fille Zelda en honneur de la légende of Zelda. Ce qui est beau, c'est que les créateurs de jeux vidéo le lui rendaient bien, puisque le PDG de Blizzard a décidé de lui rendre hommage et a donc truffé le dernier World of Warcraft, World of Draenor, de tout un tas de clins d'œil subtils à la carrière de Williams. Laurent, donc, quand vous serez devant votre console, et je vous
y
vois déjà,
c'est un meuble, une console.
Vous pourrez croiser une figure qui s'appelle Robin et qui rappelle un peu le génie d'Aladin à qui l'acteur avait prêté sa voix. Et puis vous croisez aussi un personnage à bretelles comme Mork, l'un des rôles cultes de l'acteur, ou même une femme en jupe à la Madame Doubtfire. Et alors que vous serez en train de canarder sans pitié des tonnes d'ennemis, eh bien vous verserez une petite larme et c'est très émouvant.
Puisque vous le dites, est-ce qu'il y a des réactions à ce que l'on vient d'entendre de la part de nos deux invités, Elsa Zieberstein? Non.
Non. Je ne suis pas très calée en jeux vidéo, désolée.
Et le L, Valérie Toragnan?
J'aime bien Valérie Toragnan, ouais. Je trouve que c'est une femme formidable et je pense qu'elle menait bien son journal et c'est forcément toutes les filles sont fidèles au L depuis longtemps.
Voilà. Arve Niquet, on passe... On commence ou vous avez quelque chose à développer?
Je n'ai jamais rien à dire, vous le savez.
Ça promet pour la suite de l'entretien. Et je ne vous crois pas quand on vous a déjà eu ici au micro.
Le rendez-vous.
Oh, this is France, Charlie. Look at it, it's all different. It's incredible.
It's wonderful.
Bonjour.
Bonjour.
Oh, excusez-moi, monsieur. Celui ici, c'est quoi?
C'est graine de tournesol.
Tournesol? What's that?
Sunflower. Sorry. God, it's the best. And it's organic. Sorry for interrupting.
No, it's all right. My French is terrible. We just moved here from London, so...
Oh, really? That's great. That's fantastic. Actually, we live here as well. I mean, my husband is English and I'm French. Oh, hi.
I'm Charlie. Hello. This is Gemma.
Oh, hi. Nice to meet you. I'm Wizzy.
Enchanté.
Anyway, that's a very good one.
Plateau Wizzy. C'est vous, Elsa Zieberstein, dans le dernier film d'Anne Fontaine qui sort aujourd'hui en salle. L'adaptation au cinéma du roman graphique de Posy Simons. Mm-hmm. L'histoire en deux mots, c'est celle d'une Anglaise, Gemma Bovary, qui s'installe avec son mari en Normandie, sous les yeux hallucinés de leur voisin, le boulanger du village, Fabrice Lucchini. Un boulanger qui a lu Madame Bovary et qui est obsédé par les liens entre la vie de sa voisine et l'héroïne de Flaubert. Vous êtes Wizzy, une autre voisine, une Française qui n'est pas socialiste, elle le mentionne, une voisine très chic, mariée à un Anglais et qui demande à Gemma Bovary de redécorer sa maison style Gianni Versace, mais avec une touche de minimalisme japonais. Un peu le décor d'une geisha, mais qui aurait vécu à Miami. Pour ce personnage, quelles ont été les directions de travail d'Anne Fontaine? Comment vous a-t-elle présenté cette femme, ce personnage?
En fait, elle m'a dit d'abord, voilà, c'est un second rôle, est-ce que tu acceptes de le faire? Je dis, écoute, moi, quand j'ai envie de travailler avec une cinéaste, j'y vais, c'est un apéritif qu'on fera ensemble et puis on fera autre chose derrière. Et je suis tombée complètement amoureuse du scénario et j'ai dit, non, ça m'amuse beaucoup. Il y avait un ton tellement doux, amer, un ton de comédie, en même temps c'est sur la cruauté de la vie, des relations humaines. Je trouve qu'il y avait vraiment un ton merveilleux dans le film. Et puis voilà, on s'est amusé à faire un personnage complètement snob, qui pense tout et son contraire, qui dit qu'elle veut ça, mais en même temps ça. Je trouvais ça drôle, donc on s'est amusé vraiment, on a essayé de délirer avec Anne et d'apporter de la matière, qu'elle fait obsédée par le sport, qu'elle a une machine, qu'elle mange des graines. Tout d'un coup, on a commencé à vraiment délirer sur ce personnage un peu barré. En fait, moi, j'ai beaucoup pensé à Woody Allen, parce que j'adore Woody Allen, et ça m'a, je pensais beaucoup à Judy Davis. Voilà, en fait, ça m'a inspiré beaucoup de Judy Davis dans Mariée et Femme, des femmes un peu comme ça, barrées, pas du tout heureuses, et qui sont dans une folie à elle-même. Voilà.
Comment Anne Fontaine dirige ses acteurs? Est-ce qu'elle intervient précisément, par exemple, pour la diction, pour les intonations que vous avez?
Non, pas, un metteur en scène, normalement, ne donne pas les intonations. Pas trop ceux avec qui j'ai travaillé, mais elle est merveilleuse, qu'elle est tellement précise. Le curseur, c'est rare aussi, des fois, il faut faire confiance. Le curseur est toujours juste. Tu proposes, moi, je propose beaucoup. Donc,
Par exemple, ici, qu'est-ce que vous avez proposé?
Plein de choses. Par exemple, quand je fais du sport et que je dis j'ai le cul d'une stripteaseuse de 22 ans, ça c'est moi qui l'ai trouvé dans un journal féminin.
Parce que c'est pas dans le roman graphique de Posy Simons, en effet.
Non, mais en même temps, dans le roman, après, c'est adapté. La BD est adaptée pour le cinéma. Donc même mon personnage, elle dit pas qu'elle est une geisha qui aime ci, ça. ça c'est le truc qu'on a inventé avec Anne après. Donc après elle coupe ou quand elle te laisse partir, comme c'était un personnage un peu excessif. Pourquoi je dis Woody Allen, c'est que je trouve qu'ils osent. Et dès lors où tu es dans la vérité, tu peux oser. Et souvent, on a peur d'oser. Et je trouvais que c'était important, si je trouvais cette vérité-là, de ne pas avoir peur d'être dans d'un petit excès que je voulais. Et elle était très bien pour doser ça. C'est une merveilleuse metteur en scène.
Oui, si, c'est un rôle de comédie, un genre que vous avez peu approché dans votre parcours. Une défiance par rapport à ce genre ?
Non,
plutôt, c'est ce genre qui se défie de vous ?
Oui, je pense que j'ai imposé, j'ai commencé avec Maurice Pialat, donc j'ai pas imposé spécialement ça au départ. Après, tous les gens qui me connaissent dans la vie disent « Ma, mais t'es tellement drôle !» Bon, après, c'est parce qu'on est drôle dans la vie qu'on peut faire des comédies. Mais je pense que j'en ai fait quelques-unes. J'avais fait « L'homme est une femme comme les autres », j'avais fait avec Jean-Jacques Zilberman, j'avais fait « Tenue correcte exigée », un des premiers films de Philippe Lioret. J'avais fait des comédies. Après, les gens, ils oublient, mais c'est vrai que j'ai très envie d'en faire une. Normalement, je vais en faire dans pas longtemps, mais j'ai très envie de trouver une bonne comédie.
Alors
cette femme, Elsa Zilberstein, Wheezy, pardon, je ne sais pas le prononcer comme Laurent, c'est d'abord un vestiaire. Est-ce que c'est vous qui avez supervisé ce qu'elle porte? Parce que je sais
Anne
que ça
Fontaine.
Vous arrive souvent.
C'est Anne Fontaine.
C'est Anne Fontaine. C'est la costumière qui est merveilleuse et Anne. Et
parce qu'elle
est
chavane.
Plus elle sera complètement décalée en Normandie, talons, couleurs. Ah non, ça c'est Anne. Voilà, on voulait qu'il y ait une certaine classe et en même temps elle est un peu too much. Moi, c'est pas forcément ce que j'aime, mais je trouvais que c'était drôle.
Vous vous souvenez par exemple d'un rôle qui a pu se mettre en place à partir d'un vêtement? Parce que je sais pas, on peut avoir en tête la robe d'Hervé Léger justement dans Tenue de soirée
exigée. Ouais, dans Tenue correcte exigée, effectivement, on avait trouvé cette robe rose saumon très moulante. Bah, ça aide vraiment à jouer ce que tu vas porter, évidemment. Après, qu'est-ce que ça aurait inspiré? Après, tu joues avec ton corps, donc effectivement, un vêtement peut donner une idée de se mouvoir, d'être. Mais là, je vais être Nathalie Wood sur scène, on cherche la bonne robe, parce que je bouge beaucoup, je vais danser et tout. Après, voilà, il faut trouver les vêtements adéquats.
On vous pose toutes ces questions parce qu'on sait que vous êtes très au fait de tout ce qui touche à la mode. Votre mère travaillait chez Dior, période Marc Bohan. Qu'est-ce qui vous reste justement de cette vision?
Rien, parce que quand je suis née, après ma mère a arrêté de travailler. Mais c'est plus, moi j'aime les vêtements comme une actrice. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que tu as dans le cœur ou dans la tête, tel ou tel jour, tu t'habilles d'une certaine manière. Après, c'est vrai que quand, par exemple, dans Plan de table, qui est une comédie, je faisais la femme de Franck Dubosc il y a 2 ans, Plan de table, c'est vrai que j'ai trouvé la coupe de cheveux et ça m'a aidée à jouer. Je me suis dit, tiens, je vais me faire un peu comme, je sais pas, je pensais à Shirley MacLaine, je me disais, rousse avec une frange. D'un coup, ça s'est imposé. Donc, effectivement, que le look, après, t'aide à jouer. Et que, voilà, c'est évident. Voilà. Enfin, en tout cas, c'est la base pour une actrice, c'est de trouver les bonnes paires de chaussures, trouver le vêtement et après la coiffure.
Vous citiez Nathalie Wood il y a quelques instants, mais on reste avec elle. Petit montage.
Do you know what the imagination is?
Oh, sure, that's when you see things, but they're not really there.
I love you, Jim. I really mean it.
Couldn't stop myself. Chad, don't punish me.
Nathalie Wood and Robert Wagner in their first picture together. These are not kids. They're young adults.
I can't leave him.
Why?
He thinks it's his child.
I'm moving. Maybe up, maybe down. But wherever it is, I'm enjoying it. I'm having the time of my life. Because for the first time, it is my life.
Elsa Zilberstein, vous interpréterez à partir du 23 octobre prochain Nathalie Wood sur les planches du Théâtre de Paris dans Splendour, d'après le roman de Géraldine Maillet, dans une mise en scène de Catherine Schaub. Comment on se prépare avec ce rôle? On revoit les films, on travaille sa voix, sa gestuelle. Qu'est-ce que vous avez fait?
En fait, le livre de Géraldine Maillet est sorti il n'y a pas longtemps, il s'appelle Splendour, et c'est vrai qu'elle a adapté le livre pour moi en disant « Chaque ligne, je pense à toi, il n'y a qu'une actrice qui peut le faire ». J'ai dit, je n'ai pas tellement envie de refaire du théâtre. En fait, j'ai lu le texte, je suis tombée complètement amoureuse du texte. Là, c'est un gros, gros, gros travail. C'est une grosse pression. Je vais être seule en scène. C'est revoir tous les films, là, ce que je fais en ce moment. Déjà, je redécouvre une actrice. Enfin, je découvre, moi, parce que je ne la connaissais pas bien, j'avoue.
Qu'est-ce qui vous marque chez elle, par exemple?
Alors, ce qui me marque, c'était une grande, grande actrice. Parce qu'elle a toutes les couleurs. Elle est enfantine, mystérieuse, féminine. Ce qui me fascine, c'est qu'elle a fait des rôles, surtout, il y a 2 films qui m'ont beaucoup marquée. Splendor in the Grass, La fièvre dans le sang, qui est un film exceptionnel avec Warren Beatty sur comment finalement la culture, l'éducation fait qu'on est empêché de vivre ses premiers émois avec Warren Beatty. C'est un grand film d'Elia Kazan. Et il y a un autre film qui s'appelle Property Condemned, propriété interdite en français, je crois bien, de 1966, qui est un film de Sidney Pollack avec Robert Redford. Et c'est en fait c'est ce qui me trouble, c'est que c'est les rôles qu'on fait sont toujours pas si loin d'une certaine réalité, dans le sens où elle est tout le temps en fait trimballée par la vie, elle est maltraitée par sa mère comme dans la vie, et c'est des femmes finalement perdues qui ont envie d'être aimées, qui sont en perdition, qui sont sur le fil, qui sont un peu trimballées par la vie, un peu comme elle a été. Donc là, je suis en train de lire une biographie d'elle, et puis je travaille avec la metteuse en scène qui est juste géniale. Elle s'appelle Catherine Schaub, elle avait mis en scène Ring l'année dernière avec Audrey Dana et Samy Bouajila, et j'ai la chance de travailler avec elle, elle est incroyable.
Manu Farine.
Alors, donc vous allez être Nathalie Wood, Elsa Silberstein, bientôt Arletty au cinéma. Vous avez été Anna Arendt sur scène, Suzanne Valadon, ça c'était dans Toulouse-Lautrec, Jeanne et Buterne dans Modigliani, et même la mère de Dingmar Bergman.
Ouais, ça c'était un petit peu.
Un commentaire peut-être déjà sur ces rôles récurrents de figures historiques et sur ce que ça implique finalement en termes de jeu que de se glisser dans ces rôles-là.
C'est toujours complexe parce que finalement, on est obligé de regarder, de s'imprégner. Après, je crois qu'il faut en faire sa chose. Après Nathalie Wood, elle était américaine. Je vais m'approcher, ça va être Nathalie Wood Elsa. Je vais m'en approcher avec ce que moi je ressens d'elle, avec le texte de Géraldine qui est aussi imaginaire. Géraldine Magnel a écrit un texte sur Nathalie Wood, c'est pas ses mots. Donc c'est je suis en train de me noyer, je suis sur le bateau, je suis avec Robert Wagner et Christopher Walken, donc je fais tous les personnages, et c'est sa vie qui remonte, son rapport à sa mère, son rapport à Hollywood, aux hommes qu'elle a aimés, à sa vie de petite fille, à ses envies, à ce qu'elle a raté, et c'est assez bouleversant. Voilà, après je vais essayer d'être... Je pense que ce sera un esprit qui sera là pour Nathalie Wood, ce qui est différent d'Arletty quand je vais faire le film, là c'est très différent, je pense.
Mais comment vous comprenez que vous soyez distribué dans pas mal de films pour interpréter des personnages historiques?
Je ne sais pas. Ça c'est le fantasme des metteurs en scène. On n'est pas maître de tout et on n'est pas maître de ce qu'on dégage, de la projection des gens. J'adore prendre des femmes comme ça. J'aime les femmes fortes, j'aime les femmes inspirantes, j'aime ces femmes qui ont fait des choses de leur vie, qui se sont battues. Et en même temps, tous les destins au cinéma, ce qui est beau, c'est que même un destin d'une femme qui n'est pas une héroïne, dont, comme vous venez de parler, tous les destins de femmes deviennent des héroïnes. Même une femme qui aura une histoire simple. Tous les grands films, c'est aussi des histoires simples de femmes qui ne sont pas des héroïnes de leur propre vie, mais elles le deviennent grâce au cinéma.
Est-ce que vous pensez que c'est lié à ce qu'on a dit souvent de vous, que vous aviez un physique anachronique?
Ah, peut-être, ça, tant mieux. Ouais, certainement. Je me sens très multiple, je peux me glisser dans la peau de pas mal de choses différentes.
Vous trouvez qu'elle a un physique anachronique,
Hervé Niquet? Elle est ça?
Oui. C'est très étrange.
Anachronique.
Oui, c'est ce qu'on a pu lire.
Belle comme le jour.
Mais ça, on peut être anachronique et belle comme le jour. Comment vous avez...
Non, écoutez, quand elle arrive du studio, oui, c'est une beauté moderne. En effet, qui peut peut-être se glisser absolument dans tout, oui.
Comment vous avez compris, est-ce que vous avez ressenti vous-même, dans votre parcours, que vous aviez cette beauté anachronique dont les gens parlent?
Je me dis toujours qu'il ne faut pas être à la mode, parce que ça se démode. Donc ça, c'est malgré moi, mais... J'aime bien l'idée d'être... Quand tu es actrice, tu as envie d'être unique. Je me suis toujours sentie unique. Après, c'est mon visage. C'est... Le visage est lié à ce qu'on a à l'intérieur, je pense, et à l'âme qu'on a. Et tant mieux si je peux changer de tête et me fondre dans les personnages divers.
Manu.
À vous lire dans les différents entretiens que vous avez pu donner, Elsa Silberstein, on a le sentiment que vous avez progressé de libération en libération, la danse classique d'abord, la révélation du cours Florent, Piala, la psychanalyse même. De la danse classique, par exemple, que vous avez pratiquée, je crois, très longtemps et à haut niveau, vous dites qu'elle vous a donné la parole. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire?
En fait, j'étais tellement timide au départ que je ne pensais pas pouvoir dire des mots. Donc, c'est par le corps que j'ai appris à bouger. Et voilà, et après j'ai commencé avec Piala, puis ça m'a donné les mots, mais j'ai des restes de timidité, mais ça m'a apporté la danse. C'est vrai que pour tous les rôles, j'ai une facilité à bouger, je vois bien avec Nathalie Wood comment je vais être en scène, je dois danser à des moments. Ça m'aide même pour le film de Anne Fontaine, Gemma Bovary, ça aide toujours d'avoir appris à bouger, faire de la danse.
Pourquoi vous n'avez pas choisi cette voie alors même que l'Opéra de Paris vous sollicitait à l'époque?
Parce que j'avais pas assez envie. Je pense qu'il faut que ce soit impérieux le désir. Ça doit être impérieux. Pour moi, je crève si je ne suis pas actrice. C'est essentiel à ma vie. C'est-à-dire que ça s'impose à moi. Donc, alors que la danse, je me suis demandé, il ne faut pas se demander. Je pense que quand on fait les choses comme ça, c'est trop limite. C'est des métiers, faut que ce soit vital. Faut que ce soit vital.
Hervé Niquet, la danse, j'allais dire la danse. La musique pour vous, c'était vital dès le départ?
Très bonne idée, la danse. Moi, je voulais être danseuse.
Ah bon?
Je suis monté à Paris pour étudier la danse. Comme ça, je me suis retrouvé pour payer mes cours de danse à l'Opéra de Paris, accompagné de ballet. Je suis rentré à l'Opéra, donc j'aurais peut-être pu vous croiser, mais je suis trop vieux.
Non, mais je ne suis pas allé à l'Opéra, surtout.
Et la musique, donc, c'était dès le départ un choix vital pour vous?
Ah non, un hasard absolu. Absolu, absolu, absolu. Bon, je vais toujours raconter l'histoire. C'est
ah bah non,
papa
qui a acheté.
Un... Bon, tout simplement, papa, je suis fils de cultivateur. Un jour, papa a rapporté un piano qu'il avait trouvé chez un ami. Vraiment, le truc ne marchait pas. Il a dit à ma mère, Nicole, mets le petit au piano. Je devais avoir 10 ans. Ben oui, un peu d'idée d'ascension sociale, quoi. Et puis de là, je me suis fait un peu tout seul. Quand j'avais des bonnes notes, il m'achetait 5 ou 10 kilos de musique chez le brocanteur. Vous savez, les partitions reliées, ouais. C'est comme ça que j'ai découvert tout ce que j'ai pu lire. Mais voilà, c'était pas du tout... C'est venu tout seul.
Manu Farine.
Alors vous, Elsa Zilberstein, vous dites que vous ne vous êtes pas faite toute seule, puisque vous dites que c'est Piala qui vous a donné la vie au cinéma. Qu'est-ce qu'il vous a appris véritablement? Qu'est-ce qu'il a mis en place alors que vous étiez toute jeune comédienne et que vous veniez de sortir du cours Florent?
Et que vous vouliez changer de nom?
Ouais,
pour vous appeler comme des
canapés. Déjà, il m'a fait garder mon nom. Je voulais m'appeler Steiner. Il m'a dit non, on dirait une marque de canapé. Donc, on a gardé Zilberstein. Non, il m'a donné la vie. Après, c'est comment on transforme la vie. Vous ne pouvez pas tout le temps vous retourner en disant oh, grâce à. Effectivement, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup apporté. Je pense qu'il m'a appris une chose principale, c'est de ne pas s'embourgeoiser jamais, de toujours aller vers le risque, de toujours. Ne jamais se contenter, de se jeter dans le vide, ne jamais se dire « tiens, je suis arrivée quelque part », je vais toujours vers des aventures bizarres et folles, et même dans le jeu, ne jamais m'installer, je ne sais pas, toujours me donner des coups de pied, des coups de poing à l'intérieur.
C'est ce qu'il faisait?
Hein?
C'est ce qu'il faisait? Des coups de pied, des coups
qui
de poing? Maurice Piala? Non, je plaisante.
Non, mais voilà, c'est ma première expérience. Après, j'ai eu plein d'autres metteurs en scène.
Oui,
Raoul
Ruiz.
Il m'a beaucoup marqué parce que c'est un génie, disons-le. Après, j'ai eu la chance de travailler avec Raoul Ruiz, avec plein de gens intéressants, et Martine Dugovson, Laetitia Masson, et d'autres.
Chantal Ackerman.
Chantal Ackerman. Donc après, c'est la route qui fait que... Après, c'est vous qui vous construisez. Personne ne vous donne rien. Le talent, on ne vous le donne pas. Après, il faut avoir l'intelligence de son talent, j'ai envie de dire, un minimum. C'est quelle route on prend, quel cinéaste on choisit. Pour moi, c'est le plus important, j'aime les cinéastes, fondamentalement. Et d'aller travailler avec Anne Fontaine, c'était merveilleux. Je trouve qu'elle a un talent fou. Elle passe d'un film à l'autre avec une... pudeur, une insolence, une intelligence. Quand elle fait Perfect Mothers, le film juste avant. Voilà, c'est une fille que je trouve incroyable. J'espère qu'on continuera notre route ensemble. Je crois que c'est vraiment les cinéastes qui donnent la vie aux acteurs. Sans eux, on n'est rien.
Alors, on vous a demandé, comme à tous nos invités, d'apporter un son. Et vous avez choisi ceci, Elsa Zilberstein.
Avec notre passé pour guide, on se devrait d'être lucide, mais notre méfiance est à bout. L'amour est bien plus fort que nous.
Identification de ce son, Elsa Zilberstein.
C'est un homme et une femme, c'est la chanson de Nicole Croisy et Pierre Barou. En fait, je vais tourner le prochain film de Claude Lelouch, donc je suis absolument en ce moment hantée par Claude Lelouch et par tous ces films que je suis en train de revoir en boucle et les musiques de Francis Lai que je trouve incroyables. Samedi soir, je suis allée à un concert exceptionnel dans la cour des Invalides. Il y avait tous les films de Claude Lelouch, les extraits et les musiques de Francis Lai en live. Et je suis un peu en boucle depuis, donc j'adore cette chanson, elle est émouvante. Voilà, ça me touche et Claude Lelouch parle bien de l'amour, je trouve.
Le rendez-vous, la chronique.
Avant de vous retrouver, Elsa Zilberstein et Hervé Niquet, tout de suite, c'est la chronique cinéma de Jean-Marc Lalanne.
Une chronique très chouette.
Une chronique très chouette.
Épatante.
Sur une revue vraiment passionnante qui s'appelle Réplique, qui est une jeune revue qui a 2 ans, 4 numéros, qui est semestrielle. C'est un peu un pari un peu fou, un peu audacieux en fait, de lancer une revue papier, parce qu'il y a eu une vraie floraison de la presse en ligne, des revues en ligne ces dernières années, depuis une dizaine d'années. Donc c'est un pari assez casse-cou. Et dans ces nouvelles revues en ligne, c'est plutôt la parole critique qui était privilégiée, ou les textes un peu analytiques et théoriques, comme dans de très bonnes revues en ligne comme Criticat ou Zinzolin. Là, Réplique a fait un pari qui est vraiment original, c'est d'emprunter une forme qu'on associe plutôt à la presse magazine et qui est l'interview. C'est-à-dire que c'est une revue qui ne comporte que des interviews, mais qui en porte seulement 5. Donc c'est des interviews très longues, puisque la revue fait 150 pages, et elle comporte donc 5 interviews d'une trentaine de pages. Et ce qui est très très réussi, par exemple dans ce numéro 4 qui est sorti cet été, c'est le casting. C'est-à-dire qu'il y a une très très grande variété des gens interviewés. Il y a à la fois les cinéastes dont on a vraiment envie qu'ils puissent s'exprimer sur la longueur, parce qu'ils sont un peu la crête de ce que le cinéma français est de plus créatif. Dans ce numéro-là, par exemple, c'est Bruno Dumont et Mia Hansen-Love. Dans les numéros précédents, il y avait eu Christophe Honoré, Bertrand Bonello, Miguel Gomes, le grand cinéaste portugais de Tabou. Donc des cinéastes déjà très reconnus et très exposés, mais aussi des gens beaucoup moins exposés, des outsiders, mais passionnant comme Wang Bing, un grand cinéaste documentariste chinois, ou Nabil Ayouch, un cinéaste franco-tunisien très intéressant, qui tout à coup en 30 pages, on n'est pas du tout habitué à ce qu'il bénéficie d'une telle exposition. Et puis une très belle idée, c'est de ne pas interviewer simplement des cinéastes, mais aussi des gens qui ont un rapport au cinéma qui est plus périphérique, comme par exemple dans ce numéro, il y a le critique et scénariste et poète Stéphane Bouquet. Dans un précédent numéro, il y avait Olivier Père, ancien directeur de festival, ancien critique et qui dirige aujourd'hui Arte Cinéma. C'est une très bonne idée aussi que des gens qui sont des acteurs importants de l'industrie artistique du cinéma puissent déployer leurs pensées. Ces deux interviews-là de Stéphane Bouquet et Olivier Père sont absolument passionnants et on est peu habitué à ce qu'il y ait aussi un tel espace. Pour moi, dans ce numéro, l'interview vraiment géniale, c'est celui de Mia Hansen-Love, parce qu'il y a vraiment les trois grandes qualités de l'entretien. C'est à la fois un très très beau récit biographique, avec des moments très intimes, où elle parle du divorce de ses parents, de son enfance, de son adolescence. C'est vraiment passionnant d'un point de vue romanesque. C'est aussi un document très très intéressant sur la fabrique du cinéma français, c'est-à-dire qu'elle raconte ses problèmes de production. C'est passionnant, par exemple, pour quelqu'un qui aurait envie de faire du cinéma. Et c'est aussi très intéressant, parce que l'entretien a été vraiment préparé comme une brute, et donc il y a des questions très très précises sur la récurrence de telles figures de mise en scène, donc c'est aussi un très bon entretien d'esthétique du cinéma. Donc voilà, on souhaite un très joyeux anniversaire pour leurs 2 ans à Réplique et une longue continuation.
Rinke, quel spectateur de cinéma vous êtes? Qu'est-ce que vous regardez au cinéma, si vous avez le temps d'y aller?
Oh mon Dieu, alors là c'est mon rêve d'aller au cinéma tous les jours.
Non, c'est pas non, vrai, vous
n'y arrivez plus le temps? J'ai un métier de chien, non. Mon c'est fils fait ça, oui, s'il n'a pas vu 2 films dans la journée, il a l'impression de ne rien avoir fait dans la journée, donc je suis un peu transmis mon goût pour ça, mais j'ai très peu le temps d'aller au cinéma.
Le rendez-vous.
Il met tout son pouvoir à combler nos désirs. On ne peut trop chanter sa gloire. Il la trouve dans nos plaisirs. Il la trouve dans nos plaisirs. Il la trouve dans nos plaisirs.
Plateau Triomphe de l'amour qu'a fredonné pendant toute la journée Lucille Comeau à côté de moi. Avec vous, Hervé Niquet, chef d'orchestre, chef de chœur. Vous avez fondé en 1987 le concert spirituel avec lequel vous vous attachez à retrouver et faire connaître la musique française des 17 et 18e siècles. On entend en ouverture un extrait de Pygmalion de Jean-Philippe Rameau. C'est vous qui êtes à la direction. Jean-Philippe Rameau, en fait, cette année, le 250e anniversaire de sa mort. Qu'est-ce que Rameau représente pour vous dans votre chef, dans votre vie de chef de chœur et de chef d'orchestre?
Ben, la même chose que le louche chez Elsa, c'est-à-dire le génie français, une apparente légèreté, comme disait Poulenc, rigueur sur le fond mais fantaisie sur la forme, c'est-à-dire tout a l'air facile, on ne peut pas les oublier, on écoute 2 notes, on sait que c'est ça, et puis on ne peut pas s'en séparer. Donc voilà, c'est un côté de la France génial, mais voilà, l'air de rien y toucher.
Vous dites que Rameau va vers une certaine abstraction musicale, qu'est-ce que vous entendez par
là? Ah oui, c'est un génie de ça. Ben, quand vous lisez tous les livrets des opéras de Rameau, ils sont insensés, sans intérêt.
Sans intérêt, ça.
Vraiment niaiseux. Hein. Il y en a 2 sur toute sa production, peut-être Hippolytère ici et Castor et Pollux. Mais le reste, mon Dieu, quelle niaiserie. Et moi, je me suis dit, c'est pas possible qu'un tel génie soit encombré. Je pense que ça l'emmerde d'avoir quelqu'un qui lui dit ce qu'il faut faire avec des passions dont il a rien à foutre. Et il arrive avec la musique à passionner absolument tout le monde. C'est vraiment... Oui, s'il a pas le show qui va autour, les décors, les danseurs, les machinineries, les trucs, il met une sauce, sa sauce, et tout le monde est béat d'admiration avec une histoire à 3 balles dont on n'a rien à faire.
Lucille Comeau.
Vous allez introduire dimanche prochain à l'Auditorium du Louvre un grand cycle autour de la musique française qui est intitulé De Rameau à Dao. De quel ordre serait cette continuité musicale?
Le français.
Ce sera le mot donc le plus prononcé de la journée. Oui.
Ah ben oui, mais le français.
Enfin, vous auriez pu y avoir François Valéry, hein, il est français aussi. De Rameau à Dao, à part la rime, qu'est-ce qui fonctionne?
Mais vraiment, vraiment, le français, enfin, c'est notre langue. Une fois que le lit a fixé la façon de déclamer et de mettre en musique le français, on n'a pas changé ça. On est tous amoureux de traîner comme de Poulenc, de Juliette à Lully. Enfin, et on est tous assis sur les mêmes choses. Le goût pour cette apparente légèreté, cette profondeur, le goût à articuler tout ça, et un truc que les étrangers ont du mal pour certains à appréhender. Mais respecte.
Alors pourquoi vous citez Rameau et pas un de ses prédécesseurs, je pense à Jean-Baptiste Lully justement. Pourquoi de Rameau à Dao alors que vous auriez pu commencer par Lully? Qu'est-ce qui se joue précisément avec Rameau?
Là c'est du commerce, attendez, ils veulent faire venir du monde à la conférence, ils ne vont pas faire de Lully à Dao. D'abord ça ne rime pas.
De Lully à François Valéry, moi ça rime au moins.
Et puis bon, c'est le 250e anniversaire de la mort de Rameau, il faut qu'il fasse quelque chose, comme disait ma grand-mère. Donc voilà, Rameau... Voilà, donc moi, j'ai horreur de parler de la musique. Je suis incapable de le faire. Ils m'ont collé deux conférences. Alors,
sur
j'ai appelé un peu. Eh bien, je me demande.
Moi, je sais, hein, j'ai le sujet.
Attends,
il faut relativiser l'influence de Rameau.
Oh, pétard. Non. Bon, alors, on a travaillé le machin quand même. Hein. Il y a des extraits musicaux, il y a des extraits. Mais moi, je veux rattacher ce Rameau... à notre culture française, à notre goût pour le mot, à notre goût pour la légèreté, la profondeur, l'insouciance, la courtoisie et puis l'insolence. C'est ça qui tient notre pays. Que fait l'étranger quand il arrive à Roissy? La première question, c'est qu'il demande s'il y a des grèves. Je veux dire, c'est le pays du bordel quand même. Organisé, on adore ça, le bordel, et puis, mais on le dit joliment. Donc voilà, c'est Rameau, il a fait ça mieux que personne.
Alors, depuis quelques années, vous vous attaquez au sein d'une fondation qui s'appelle Palazzato Bruzane au répertoire romantique français avec un compositeur, j'ai pu lire en particulier, qui vous intéresse, c'est Max Dolon, que vous préférez même à Debussy. On écoute un petit extrait.
Il y avait toute une gestuelle qui accompagnait ce morceau. Ça lui met les poils, il lève les bras au ciel, verveniqué.
J'adore la radio.
Mais alors pourquoi Max Dolon plus que Debussy?
Pourquoi pas, je vais vous faire une réponse de jésuite. Debussy, on en a plein les bacs de machin, mais qui connaît Max Dolon? Je veux dire, c'est... Alors, pour la petite histoire, je me suis avec ce Palazzetto Bruzane, j'ai poussé une mécène, qui est ma mécène depuis longtemps, Nicole Bru, avec sa fondation, a sauvé le patrimoine français du 19e et 20e siècle qui a été racheté par des éditeurs allemands et américains qui ne font rien d'autre que du commerce. Et grâce à elle, on a pu chercher, éditer et diffuser cette musique extraordinaire. On connaît quelques auteurs du 19e, mais on n'en connaît pas 10%. Max Dolon est un génie, c'est sensuel. Ce que vous entendez, il a composé ça à 19 ans. Le gamin, il avait 19 ans, il concourait pour le prix de Rome. Moi, à 19 ans, je faisais encore des conneries, j'avais à peine aligné trois accords. Et le type, il connaissait la vocalité, la poésie, l'orchestration. Et là, on a écouté trois notes, on avait tous le frisson. 19 ans, le gamin! Donc voilà, c'est un génie.
Dans votre parcours de chef d'orchestre, de chef de chœur, est-ce que vous avez été aussi un temps compositeur? Est-ce que vous composez pour vous, par ailleurs, Hervé Niquet?
Alors, moi, je compose que quand je suis payé. Parce que c'est un boulot de chien.
Et donc, oui, j'en ai fait pas mal. Bah, quand j'ai accompagné à l'opéra, je composais beaucoup parce que ça m'ennuyait de jouer ce qui est écrit. Donc, le matin, à la danse, j'improvisais et j'ai improvisé pendant des années. Du coup, on m'a demandé d'écrire des ballets pour la réouverture des ballets de Monte Carlo. Là, son Alta Sérénissime, la princesse Caroline de Monaco, m'a demandé d'écrire un ballet sur une nouvelle de Stefan Zweig, 24 heures à la dépit d'une femme. Et puis, avec mes différents ensembles, j'ai écrit beaucoup pour en jouer. Puis, quand il y a des trous dans nos partitions anciennes, il faut bien les remplir. Donc, je les remplis. Mais je le dis pas, je m'en fous.
Quand vous étiez, non pas à l'opéra, mais quand vous faisiez de la danse classique, Elsa Zieberstein, sur quelle partition vous aimiez plus danser? Quel était le répertoire que vous préfériez?
La danse, quand on est petite comme ça, c'est beaucoup de Tchaïkovski. Oui.
Adam, Gisèle.
Voilà, moi j'ai été fan de Gisèle, ce qui m'a donné envie d'être danseuse à un moment. Oui. Gisèle, c'est merveilleux. Voilà, c'est plus des choses comme
ça. Tchaïkovski, ouais. C'est formidable. Mm-hmm.
Lucille.
Hervé Niquet, vous êtes spécialisée dans la musique de ballet et dans le répertoire lyrique. La musique, pour vous, c'est vraiment associé à la scène. Est-ce que vous avez un souvenir d'opéra ou de ballet dans votre jeunesse qui aurait été fondateur, qui vous aurait donné envie d'aller par là?
Bah, écoutez, je suis passé de ma campagne, vraiment, d'Abbeville, dans la Somme. Je dis, c'est trop du cul du monde, il ne se passe rien. Quoi. J'ai eu la chance de rencontrer un professeur de piano extraordinaire à Amiens qui m'a poussé à monter à la capitale. Et donc, je suis arrivé, j'avais 19 ans, je gagnais un peu ma vie en accompagnant des cours. Et à 20 ans, j'ai été pianiste à l'Opéra de Paris. Je me souviens, j'habitais dans le 6e, mais là, j'allais à l'Opéra. Le soir où j'ai été nommé, je suis allé à l'Opéra, pour la première fois de ma vie, à l'Opéra de Paris. Et là, j'ai vu Montserrat Caballé, José Carreras, Seiji Ozawa, dans Turandot de Puccini. Je suis tombé à la renverse. Je passais des poules, des veaux, des vaches et des cochons à la fosse d'Opéra de Paris. Vous imaginez le traumatisme? Et puis après, le lendemain, tous les ballets, évidemment, avec les tutus, ça sent la colophane et tout ça. Non. Il y avait une Nourayev. Oh, moi, ce n'est qu'un souvenir. Ça, c'est un choc physique.
Spectatrice d'opéra aussi,
Zazie Berstein? Beaucoup de danse, moi. Lac des Cygnes, Casse-Noisette. Je continue à aller beaucoup à l'opéra, voir de la danse.
Hervé Niquet, on vous a demandé, comme à tous nos invités, de nous apporter un son qui vous a marqué. Et voici ce que vous avez choisi.
Voilà, alors j'y vais. Oh,
oui, oui, oui,
c'est
oui.
La note. Je prends ma...
C'est pas la seule, hein. Il y en a plein. Ah. Enfin, moi, ça va, dans la chanson, je fais rien. Le plus dur, de toute façon, c'est d'écouter, là.
Oh. Aux environs des belles années 1910, lorsque le monde découvre l'automobile, une pauvre femme abandonnée avec ses fils par son mari qui s'est enfui à la ville. Dans une superbe panade, le maçon qui conduisait...
Identification de ce son très français, Hervé Niquet.
Ah ben c'est Shirley et Dino.
Avec qui vous avez d'ailleurs déjà travaillé?
Ah ben oui, on est vraiment grands amis et puis on a fait plein de bêtises. On va en refaire là à l'ouverture de l'année 2015.
Ici, il y a encore une mise en scène pour vous?
Oui.
Quelle mise en scène?
Alors c'est Don Quichotte chez la Duchesse de Joseph Baudin-Boismortier sur un texte de Simon Favard, un livret de Simon Favard. Et c'est à pisser de rire.
Vraiment. Pourquoi vous avez choisi cet extrait?
Pourquoi? Bah parce que j'étais enfermé, je dirigeais, mais il y a 12 ans, dans un opéra en banlieue, en province. Et en rentrant de l'opéra, j'ai mis une chaîne un peu comique sur le câble. Et je suis tombé, je ne les connaissais pas, sur Shirley et Dino qui faisaient leur truc. Et je me suis retrouvé, il était 1h du matin, je riais mais comme un bossu, tout seul. Alors que j'étais déprimé une demi-heure avant, mais je me suis dit, mais ils font tout ce que j'ai rêvé de faire sans jamais avoir osé le faire. Et évidemment, quand j'ai eu l'opportunité de travailler avec eux, c'est mon fils qui m'y a poussé, j'ai réalisé tout ce que je voulais faire.
C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez réalisé? Par exemple, monter sur le plateau, rejoindre les chanteurs? Et quoi d'autre?
Faire le zouave! Faire le zouave, mais techniquement, c'est-à-dire, bon, évidemment que je faisais le zouave. Mais là, quand vous êtes devant 1200 personnes qui ont tous payé leur ticket 45 euros, il faut que ça soit réglé. Ben, je peux vous dire, ils m'ont appris à être acteur. Et pire, c'est faire du comique. Parce que quand on fait de la tragédie ou de la musique classique, personne ne vient vous emmerder dans votre tactus et tout ça. Là, quand il y a les rires, vous faites comment? Ben, ça vient tout interrompre. Il faut vivre autrement. C'est formidable. Donc voilà, ils m'ont appris ça.
Lucille.
Alors, dans un autre genre, au Théâtre des Champs-Élysées, on pourra vous voir dans quelques semaines diriger Castor et Pollux.
Ah oui, c'est
de
plus
Rameau.
Sérieux. Hein.
Comment est-ce que vous avez travaillé avec Christian Scaretti qui signe la mise en scène? Je pense particulièrement à toutes ces scènes de ballet, justement.
Alors d'abord avec Christian, c'est comme vous le savez, il est directeur du TMP Villeurbanne.
De Villeurbanne, oui.
C'est un amoureux, alors là, de la langue française. Là, la versification, le vers, l'alexandrin, ils n'ont plus de secret pour lui. Moi, j'adore ça, évidemment. Je suis très, très assis sur le texte quand je fais de la tragédie mise en musique. Donc, on s'est assis, je me souviens, dans un restaurant japonais. On a pris le texte. Ils ont dû nous sortir vraiment parce que l'heure était largement passée. Et on est tombés comme deux gamins à lire ça, mais comme dans un magasin de bonbons. On avait les mêmes soucis, les mêmes idées de projection, de prosodie.
Les soucis étaient de quel ordre pour vous ?
Eh bien, d'abord, d'asséner une tragédie sans ennui, de convaincre des chanteurs qui sont quand même des agités du gosier. Il faut d'abord qu'ils chantent avant de jouer, qu'on comprenne. Donc, c'était notre souci. Et la semaine qu'on vient de passer en répétant, il n'y a pas une note de musique avec lui. Il les a assis. Moi, je l'ai fait travailler le matin musicalement, mais lui, il les a assis en faisant de la lecture, du drame, de la psychologie et tout ça. Et c'est absolument formidable.
Elsa Berstein, tout à l'heure, quand vous avez présenté Nathalie Wood, vous disiez, j'ai repéré ça, que vous ne vouliez pas retourner au théâtre précisément.
Non.
Pourquoi, en fait ?
Parce que je suis née au cinéma et je préfère le cinéma. Ça me ressemble plus. Le rythme du cinéma me convient plus. J'aime l'idée d'être volée, j'aime l'idée qu'on s'approche, j'aime le rapport à la caméra, la sensualité de tout ça. Après, je pense que je suis aussi une actrice de théâtre, j'en ai fait plusieurs fois.
Bien sûr, oui.
Après, quand je m'y retrouve, voilà, il y a une électricité, la scène, quelque chose que j'aime, mais c'est tellement dur, c'est tellement vertigineux, c'est tellement monstrueux, quoi. Là, je vais être seule, je ne sais même pas comment je vais... Bref, gérer, mais je vais le faire. Mais c'est parce que le texte, j'ai pas pu refuser. Le texte était génial. Donc, j'ai dit, OK, j'y vais. Mais... De toute façon, voilà, vous demandez ce qu'elle m'avait appris, Piala, à être dans l'inconfort, profondément. C'est pas en étant dans le confort qu'on fait des grandes choses, enfin, qu'on essaie en tout cas d'atteindre. J'aime bien me mettre dans l'inconfort pour me surpasser et me dire que je vais être capable de faire ça tous les soirs. Voilà.
Lucille.
Vous dites, Hervé Niquet, que vous avez l'esprit d'un brocanteur. Je le disais au début, de fait, vous exhumez régulièrement des partitions qui sont inédites. Comment et où vous les trouvez, ces partitions ?
Brocanteur, il y avait des grosses armoires chez moi et je les ai remplies avec des tonnes de trucs que j'ai trouvés à la Bibliothèque nationale de France, rue de Richelieu, qui est probablement le plus gros trésor musical qu'on ait dans le monde, avec la bibliothèque des Hohenzollern à Vienne. Donc voilà, il suffit de remplir, de lire, de se dire un jour je vais faire ça. Je remplissais mes armoires et j'en ai plein des armoires. Donc quand j'ai une opportunité, une fenêtre de tir, un peu d'argent pour faire quelque chose d'incroyable, on calcule bien ce qu'on va faire et je sors ça. C'est très très simple.
J'ai lu que vous aviez fabriqué des clavecins lorsque vous étiez au conservatoire. Comment on fabrique un clavecin et surtout qu'est-ce que ça vous a apporté, Hervé Niquet ?
Moi j'aime bien savoir comment ça marche. Ah. Et du coup, quand c'est cassé, je répare. Alors là, je peux vous dire qu'en tant que claveciniste, et puis en accorde et en entretien et tout ça, c'est vraiment très précieux. Et puis, vous en achetez un petit, vous le revendez un peu plus cher, et puis un deuxième, puis vous le rendrez un peu. Puis voilà, au bout de 3 ans, vous en avez un très beau parce que vous avez... Voilà. Et puis surtout, vous savez comment ça marche. Et puis moi, ça m'a passionné. Comment ça a été monté. Puis alors, du coup, toute la musicologie, l'organologie, voilà, ça m'apporte plein de réponses.
Dernière question, Lucille.
Dans une interview il y a quelques années, vous dites que quand vous en aurez marre...
Oui, on n'a que ça à faire.
Même les trucs, vous allez voir, ça... Quand vous en aurez marre d'avoir le trac avant les concerts et les répétitions, vous ouvrirez un hôtel à Brive-la-Gaillarde.
Ah oh, oui.
C'était une boutade ou c'est
une perspective ? Non, c'est pas du tout une boutade. Mais comme dit Elsa, c'est l'horreur. Une heure avant, on a juste envie de mourir. Je suis fatigué d'avoir peur. Mais ce n'est pas seulement au spectacle, c'est aux répétitions. Quand vous êtes au bout du monde, que vous avez pris l'avion, que vous avez passé la nuit dans un hôtel que vous ne connaissez pas, vous vous retrouvez devant 80 personnes qui n'ont qu'une envie, c'est que vous vous plantiez. Vous avez une idée de solitude. J'ai plus envie de ça, d'avoir peur. Vous avez peur au début de la répétition, à la première pause, et puis vous reprenez l'après-midi, et j'ai encore peur. Et avant le concert. Alors, être chez moi, ne pas bouger, ne pas prendre l'avion, ne pas chercher les toilettes après douane parce que vous avez oublié de faire pipi avant de descendre de l'avion, qu'il faut attendre la valise. Voilà, c'est ça notre métier. Et bien d'être à Brive-la-Gaillarde, à la sortie de la gare de Brive-la-Gaillarde, il y a un vieil hôtel qui est quasiment en perdition. C'est une maison merveilleuse.
Ah, vous l'avez même repéré ?
Ah ben oui. Ah ben oui. Et puis faire une maison, faire un bel hôtel, c'est aussi c'est la même chose que faire un ensemble, un orchestre ou un chœur. Si vous voulez que votre bonne maison marche, tout le monde, de la femme de chambre au grand cuisinier, doit être concerné par un papier qui traîne dans le couloir.
C'est une leçon de vie.
Oh là là.
Merci
à vous. Vous sur France Culture, j'ai pas tout compris, allez-y. Nicole met le petit au piano.
Et ça m'a aidé à jouer.
Merci à nos invités, Elsa Zieberstein, Gemma Bovary est sortie aujourd'hui en salle et je rappelle que l'on vous retrouvera au Théâtre de Paris à partir du 23 octobre dans Splendour. Hervé Niquet, vous ouvrirez dimanche prochain à l'Auditorium du Louvre le cycle de Rameau à Dao et je signale que vous dirigerez Castor et Pollux de Rameau au Théâtre des Champs-Élysées à Paris à partir du 13 octobre. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain...
Hé monsieur là, faut pas boire l'eau de la piscine, elle est pas potable.
M'en fous, je suis mort.
Michel Houellebecq, pas vraiment mort, mais en tout cas dépressif. Il sera à l'honneur avec le duo de réalisateurs Gustave Kervern et Benoît Delépine. À ses côtés, l'économiste et journaliste Bernard Maris. Des annonces, Hippolyte ?
C'était le rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Lucille Como, Manu Farine, Adrien Nazelli et Hippolyte Babilote, chronique Jean-Marc Lalanne, journal de la culture Zoé Sfez, à la technique Alex Dang, à la réalisation Thomas Beau. Vous pouvez télécharger, réécouter, podcaster et commenter l'émission sur le site franceculture.fr et rejoindre la grande famille du rendez-vous sur les réseaux sociaux avec le hashtag RDV.
Je trouve que cette voix un petit peu robotique, ça vous donne tout votre style, Hippolyte. C'est parfait. Il est 19h53 minutes. 53 minutes, on est presque à l'heure. Vous écoutez France Culture, c'est bien. Et tout de suite, je vous laisse avec Denis Podalydès de la Comédie Française.